Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle, affirme que l'État ne dicte rien à la Nouvelle-Calédonie. Claire Durieux, invitée de transparence à la mi-journée sur RRB, extrait dans ce journal. Christian Théin va-t-il pouvoir revenir en Calédonie? Son contrôle judiciaire a été assoupli par les juges d'instruction, mais le parquet de Paris a fait appel. La Foire du Pacifique a ouvert ses portes baie de la Moselle ce matin. Plusieurs centaines de visiteurs ont déjà foulé les allées de la foire qui fête ses 15 ans. Soutenir le personnel soignant du SMUR, victime de caillassages récurrents lors de ses interventions. Le Soin de Santé a organisé aujourd'hui un débrayage au Médipôle de Coutiouf. Et puis le sport et le football et la sélection calédonienne des moins de 20 ans qui a une nouvelle fois été battue en Coupe du Monde. Les Cagoules se sont inclinés ce matin 5-0 devant l'Afrique du Sud. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. L'État ne dicte rien à la Nouvelle-Calédonie, affirme Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle. Elle était ce midi donc l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence et elle a précisé, Jean-François Bodin, les objectifs de son nouveau déplacement sur le territoire.
Oui, c'est le troisième séjour de Claire Durieux et son deuxième en tant que directrice de la mission interministérielle qui est chargée d'accompagner le territoire dans la refondation de son modèle économique et social. Il s'agit d'un exercice sur le long terme et son mandat n'est pas lié à l'instabilité gouvernementale que l'on connaît au niveau national.
Alors, je ne suis pas inamovible, évidemment, mais comme je ne suis pas dans un cabinet ministériel, même en cas de remaniement ou de changement de gouvernement, tant que le décret de constitution de la mission n'est pas abrogé, la mission se poursuit. Donc la mission se poursuit, je vous le confirme. Je pense effectivement que c'est important d'avoir une administration, entre guillemets, parce qu'on est un tout petit service de l'État, il y a 10 personnes, mais d'avoir une administration au niveau interministériel qui continue à suivre dans la durée les sujets calédoniens. Ouais.
La mission de refondation est un exercice de long terme, mais il est aussi important d'avoir des réponses de très court terme, étant donné la situation catastrophique de l'économie calédonienne, reconnaît Claire Durieux.
C'est très important d'avoir des réponses de très court terme, parce qu'il y a des sujets qui sont très urgents. Donc en particulier, je pense à la situation du nickel, je pense à la situation des finances publiques dès 2026 en Nouvelle-Calédonie, que ce soit celle du gouvernement, des provinces ou des communes. Et puis bien sûr, il y a une troisième urgence immédiate, qui est la question de la relance des investissements pour faire repartir la consommation, faire repartir l'économie, éviter qu'il y ait des pertes durables, des destructions durables de l'appareil productif, donc des entreprises tout simplement, ainsi que des exploitations agricoles.
La directrice de la mission interministérielle rappelle les aides mises en place par l'État dès juin 2024, avec le versement tout compris de 324 milliards de francs pour l'année 2024. Cela représente 30% du PIB de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le double de ce qui est versé normalement. Elle indique que des investissements importants sont déjà prévus par l'État pour la période 2024-2030. L'État qui continuera son aide à l'investissement, mais en faveur des projets les plus rentables pour la Nouvelle-Calédonie.
Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est que dans la sélection des éventuels projets, c'est qu'on ait l'obsession de savoir quel est le retour sur investissement. Est-ce que c'est juste un projet qu'on finance pour faire marcher le BTP à très court terme, mais qui ensuite crée des charges de fonctionnement qui sont insupportables pour le territoire et n'améliorent pas la croissance et l'emploi à long terme? Ou est-ce que ce sont vraiment des projets qui à la fois font marcher le BTP quand on les construit, mais qui ensuite augmentent la richesse du territoire? C'est vraiment cette deuxième catégorie de projets qui, il me semble, sont les plus intéressants à regarder.
Et Claire Durieux a aussi été interrogée sur le versement de la deuxième tranche du PGE après l'adoption d'un plan de réforme qui satisfait aux conditions posées par l'État. Elle tient à affirmer que la liberté des élus est totale.
Le contenu du plan d'action était complètement et reste complètement à la main des élus calédoniens. La seule demande qui avait été celle de l'État, c'était qu'il y ait un plan d'action qui redresse la situation financière. Ce qui est une demande qui me semble raisonnable, puisque quand on dit c'est l'État qui finance, qui fait des prêts, c'est à moitié vrai. En fait, c'est le contribuable national. C'est le contribuable de Paris, de Limoges, de Bures-sur-Yvette, de Mamoudzou, de Cayenne, qui paye concrètement pour venir en appui de leurs compatriotes de Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi beaucoup de réformes qui sont prises au niveau national, parce que le pays, de manière générale, est dans une situation compliquée. Donc on demande des efforts aux Français en général, et donc c'est ça la logique de dire il faut également qu'il y ait des efforts faits en Nouvelle-Calédonie, mais l'État ne dicte absolument pas le contenu des réformes à prendre. Il est là en appui, en expertise technique, mais il ne se substitue en aucun cas aux compétences du territoire. Et j'ai presque envie de dire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la logique de la mission interministérielle et la logique de l'État, c'est d'aider le territoire à se redresser pour retrouver une santé financière et pour pouvoir à nouveau exercer ses compétences.
La mission interministérielle a été créée en juin, mais l'accord de Bougival vient préciser sa mission avec les grandes lignes d'un pacte de refondation économique et financière. L'un des objectifs du séjour de Claire Durieux, c'est de faire une proposition de méthode sur laquelle il faut trouver l'adhésion.
Il faut que le Congrès, les provinces, les communes, le monde socio-économique, le Sénat coutumier, le CESE, adhèrent. Évidemment, le gouvernement en premier lieu, mais je crois que pour le gouvernement, c'est le cas, adhèrent à cette logique ou proposent quelque chose de différent pour que, justement, on arrive à trouver la bonne organisation qui permette de trouver cette adhésion et donc de passer des listes de mesures à des réformes concrètes. Et ça, c'est vraiment un des objectifs prioritaires de mon déplacement actuel. Et donc, j'espère que quand je repartirai, tous les partenaires et les élus auront topé sur la méthode, justement, pour faire tout ce travail.
Interrogée sur les différents secteurs de la refondation, la directrice de la mission interministérielle souligne que la filière nickel est la priorité absolue et qu'elle a eu de nombreux entretiens sur le sujet à Paris. Il lui a enfin été demandé quand ces travaux produiraient leurs fruits et quand la Nouvelle-Calédonie serait sortie d'affaire.
On ne le saura qu'une fois que ça sera effectif. Mais ça a déjà, comment dire, je ne veux pas que ce soit mal interprété. Évidemment que la situation économique actuellement n'est pas bonne. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a déjà des entrepreneurs qui réinvestissent, qui ont des projets, qui se relancent. Et l'idée, c'est juste d'aller maintenant le plus vite possible, créer un choc de confiance. C'est aussi l'objectif de la mission, de montrer que la solidarité nationale est là. Si le gouvernement, si le niveau national ne souhaitait pas accompagner la Nouvelle-Calédonie, la mission n'aurait pas été créée, on n'aurait pas mis 10 personnes, on n'aurait pas... Voilà, donc je pense que c'est important d'être persuadé que ça va repartir. Déjà, il y a eu un frémissement en juillet. La confiance du monde économique en juillet, telle que mesurée par l'IOM, elle est remontée à des niveaux plus élevés que ce qu'on avait encore avant les émeutes.
Après la signature de Beaujeval.
Tout à fait. Donc ça montre bien qu'il manque pas grand-chose pour que ça réenclenche en réalité. Et c'est notre rôle collectivement de dire ce qui va bien, d'avancer et de tout faire pour que ça reparte le plus vite possible.
Claire Durieux a aussi évoqué l'équipe de 10 personnes qu'elle a composée pour constituer cette mission interministérielle, avec des experts du nickel, des comptes sociaux, des sujets d'investissement et d'aménagement du territoire. Pendant ce séjour, elle va se déplacer sur le terrain et rencontrer de nombreux Calédoniens. Elle se rendra notamment dans les provinces Nord et Îles.
Et cette interview de Claire Durieux sera rediffusée en intégralité dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et vous pouvez aussi l'écouter ou la visionner sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Actualité judiciaire, les juges d'instruction avaient autorisé Christian Théin à revenir en Nouvelle-Calédonie, mais le parquet s'y oppose. Le parquet de Paris fait appel de la décision des juges d'instruction chargés du dossier qui, le 24 septembre, avait donc autorisé le leader de la CCAT à rentrer sur le territoire. Le parquet avait jusqu'à vendredi pour faire appel et il a saisi cette opportunité. Une décision qui ne surprend pas les avocats de Christian Théin. Maître Mélico déclare qu'après le bruit médiatique organisé par les opposants politiques de son client, il n'est malheureusement pas surpris. C'est désormais la Cour d'appel de Paris qui doit se prononcer. Christian Théin reste mis en examen pour vol en bande organisée avec armes, destruction en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et de délits. La pétition mise en ligne sur change.org pour s'opposer à son retour en Nouvelle-Calédonie compte désormais plus de 10 200 signatures. Et puis, justice en Calédonie, 4 ans et 4 mois de prison pour l'homme qui avait foncé en voiture sur des policiers de la BEC. Il était jugé en comparution immédiate ce matin, Jean-François.
Lors de sa garde à vue, ce jeune homme de 24 ans, originaire d'Akéti à Canala, avait reconnu avoir volé une voiture dans la nuit de lundi à mardi. À plusieurs reprises, il a refusé de s'arrêter alors que les policiers voulaient l'interpeller. Il a même foncé sur un agent sorti de son véhicule de service. Ce policier de la BEC avait dû sauter rapidement dans l'habitacle pour éviter d'être percuté. Le prévenu conteste avoir eu l'intention de tuer le policier, mais il a reconnu avoir percuté sa voiture pour prendre la fuite. Il a comparu en état de récidive légale, puisqu'il est connu de la justice pour des faits de vol aggravé et de violence volontaire. Ce matin, il devait répondre de vol avec dégradation, refus d'obtempérer et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique avec arme par destination. Il a donc été condamné à 4 ans et 4 mois de prison, a été placé sous mandat de dépôt, donc incarcéré, à l'issue de l'audience.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et la réponse à notre question d'hier, 84% des auditeurs d'Erarb qui se sont exprimés par SMS estiment que la remise en état de la ligne du Néobus n'est pas un chantier prioritaire. Ils sont 16% à être d'un avis contraire. Voici notre question du jour. Le déploiement de nouveaux moyens technologiques va-t-il permettre, selon vous, de mieux lutter contre les feux de forêt? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La Foire du Pacifique fait son retour. C'est aujourd'hui l'ouverture de la 15e édition de cet événement. Il réunit, comme les années précédentes, plusieurs stands d'artisanat local, de bijoux, de très nombreux autres produits, sans oublier, bien sûr, les nombreuses propositions touristiques et les stands de restauration. Des animations et des danses traditionnelles sont également prévues. Cette année, les pays de la région, invités d'honneur des précédentes éditions, sont également présents. Dès la première journée, les Calédoniens se sont retrouvés nombreux pour partager un moment autour de la culture océanienne.
C'est un moment important de redémarrage d'un certain nombre d'activités. Le tourisme, qui est en crise, et dont j'ai vu, là, en parcourant les allées, de très nombreuses promotions.
Madame a acheté des... c'est amusant, des...
Des petites meringues.
Des petites meringues au cava.
Un petit peu la culture océanienne, tout ce qu'on voit. Et je fais pas souvent de marché, là ça m'arrange, c'est juste à côté de mon travail. Et puis j'adore me balader, regarder tout ce qu'on peut créer dans le monde. Je suis allée regarder aussi tout ce qui est pierres semi-précieuses parce que j'adore ça.
La foire du Pacifique, on l'attend tous les ans. Et réellement, là, cette année, c'est bien une ouverture, l'organisation est belle.
La motivation première, c'est Tahiti. Et en seconde, c'est de se dépayser un peu, voir du monde, de la vie, des stands et des découvertes, pourquoi pas.
Et la cérémonie d'ouverture s'est tenue en fin d'après-midi en présence des représentants des différentes institutions. La Foire du Pacifique qui reste ouverte jusqu'à dimanche. N'oubliez pas de venir rencontrer les équipes de la radio sur le stand d'RRB. Il est 17h58, on va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, la suite de l'actualité en Calédonie. Nous reviendrons notamment sur ce débrayage à l'initiative du soin de santé devant les Medipôle, c'était ce matin.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Au Château Royal, chaque mois est une nouvelle invitation au voyage. Laissez-vous surprendre par un menu dégustation inédit où chaque assiette révèle l'alliance parfaite entre créativité et harmonie des saveurs. Une expérience immersive, sublimée par des accords soigneusement pensés, pour que chaque bouchée devienne un souvenir inoubliable. Retrouvez notre prochain menu et notre prochaine date sur notre page Facebook afin de réserver votre rendez-vous mensuel. Place limitée, réservation obligatoire au 29 64 00.
Savez-vous qu'il est préférable de ne pas dépasser de 8 degrés l'écart entre la température intérieure et la température extérieure ? Sachez aussi qu'une habitation bien isolée permet de gagner jusqu'à 5 degrés de température intérieure.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Info soir, Lionel Sabot.
Et ce débrayage, l'initiative du soin de santé devant le Medipôle ce matin, le syndicat s'est mobilisé pour soutenir le corps médical et notamment le personnel du SMUR, victime de caillassages récurrents ces derniers temps. La semaine dernière, par exemple, lors d'une intervention de nuit, des ambulanciers ont subi des caillassages. Écoutez le témoignage de l'ambulancier SMUR qui était au volant de l'ambulance.
Et je devais partir en intervention, donc ça a été très compliqué de continuer l'intervention car j'avais quand même le pare-brise fissuré. Mais voilà, on a un travail qui fait qu'on est obligé d'arriver sur les lieux, donc ça a été dur. Psychologiquement aussi, parce que de se prendre des cailloux sur la route, c'est très compliqué. Quand on part en intervention, surtout quand c'est un SMUR, le SMUR c'est quand même une équipe médicale qui se déplace. À l'aller, on est trois devant. Donc il y avait l'infirmière et le médecin. On était quand même choqués parce que de se prendre un caillou en pleine nuit, c'est très difficile. Voilà, c'était juste pour interpeller un peu la population que nous, on n'est quand même pas à l'abri hein, dans notre travail.
Et ce débrayage à l'initiative du soin de santé s'est déroulé ce matin entre 8h et 9h au Medipôle à Cuccio. L'actualité militaire à présent, les gardiens, ces avions de surveillance et d'intervention maritime déployés en Nouvelle-Calédonie seront remplacés par deux nouveaux Falcon 2000, des Albatros qui ont des performances accrues. C'est une très bonne nouvelle pour le territoire, nous a expliqué le lieutenant de vaisseau Thierry, chef du détachement de la flottille 25F.
Très bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie et pour les forces armées dans le Pacifique en général. Avec l'arrivée du Falcon 2000 Albatros, qui est un avion de nouvelle génération qui permettra de couvrir des zones plus larges et d'éviter une position d'enclavement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, par exemple, dans le Pacifique. Ils vont avoir des performances accrues, forcément, avec cet avion de nouvelle génération en termes de distance franchissable, d'autonomie sur zone, avec la possibilité de réaliser des missions de plus de 7 heures, contre 4 heures actuellement maximum pour le gardien, ou encore d'atteindre l'Asie du Sud-Est ou Tahiti en direct, par exemple. Les performances du système d'armes seront aussi largement décuplées, avec un nouveau radar très performant au-dessus de l'eau, des nouveaux senseurs optroniques, surtout l'Euroflir 410, qui permettra la réalisation de missions de secours maritime de nuit, par exemple, qui manquent cruellement aujourd'hui à nos gardiens. Et enfin, une amélioration du système de mission et de connectivité avec des liaisons satellitaires, des radioclités, des liaisons de données tactiques et donc une plus grande interopérabilité avec les marines modernes du coin.
Et les deux Falcon 2000 Albatros devraient être livrés en Nouvelle-Calédonie d'ici à 2030. 720 millions de francs pour développer des formations d'avenir en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de financements obtenus dans le cadre de la participation de l'UNC et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à des appels à manifestation compétences et métiers d'avenir France 2030, Jean-François.
France 2030 qui est, je vous le rappelle, un programme d'investissement national de l'État. Ainsi, 40 projets venant de toute la France mais aussi des régions d'outre-mer ont été lauréats et parmi ces projets, deux de Nouvelle-Calédonie. Dans le détail, l'État a octroyé 480 millions pour le projet Avenir NC qui consiste à ouvrir des filières de formation supérieure autour de la décarbonation de l'industrie et 240 millions pour Campus N qui développera les formations numériques sur le territoire. L'investissement dans le numérique est une continuité de la volonté du gouvernement de faire du territoire un leader dans le milieu. Le projet Campus N comprendra plusieurs axes de travail que détaille Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du numérique.
À la fois sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité, sur le fait de former les chefs d'entreprise à accueillir des nouveaux entrants numériques dans leur entreprise, mais également d'avoir des processus de reconversion, parce qu'on est dans une période compliquée pour la Nouvelle-Calédonie avec des personnes qui ont perdu leur emploi et qui doivent se rediriger vers d'autres emplois. Et le secteur numérique embauche, et donc cette enveloppe va permettre aussi à favoriser de la reconversion.
Maintenant que le financement est assuré, reste à attirer les étudiants, car la demande des entreprises est réelle, explique la présidente de l'UNC, Catherine Riss.
Là, c'est vraiment orienté en termes de besoins, des compétences dont a besoin et aura besoin la Nouvelle-Calédonie. Il y a effectivement tout un volet à travailler maintenant sur l'attractivité de ces métiers, de ces carrières. Les carrières de l'industrie, les carrières de numérique ne sont pas aujourd'hui, même s'il y a des taux d'insertion professionnelle qui sont très élevés, ne sont pas les carrières qui sont les plus attractives pour les étudiants et les élèves. Donc on va commencer dès le lycée à sensibiliser et puis à apporter de l'information sur les opportunités de ces carrières pour les jeunes, pour qu'ils s'engagent aussi dans ces nouvelles formations.
À courte échéance, c'est-à-dire dès la rentrée prochaine en 2026, l'UNC proposera une licence mathématique et informatique appliquée aux sciences sociales et humaines. D'autres formations devraient suivre, que ce soit dans le domaine de la décarbonation ou du numérique.
Dans l'actualité de ce vendredi soir également, cette alerte à l'IFOU, un scarabée rhinocéros du cocotier a été détecté pour la première fois cette semaine, Jean-François.
La DAVAR a été alertée avant-hier par l'association Arbofruits. L'insecte redoutable ravageur des cocotiers et autres palmiers, on le sait, avait déjà été signalé sur la Grande Terre en 2019, mais les îles Loyauté resté jusqu'ici indemne. L'identification a été confirmée par le laboratoire d'entomologie de l'Institut agronomique néo-calédonien. Immédiatement, la province des îles, Arbofruits et le CIVAP ont déployé des équipes pour rechercher d'éventuels foyers de nidification, repérer des arbres symptomatiques et renforcer le piégeage autour du site. Parallèlement, les partenaires institutionnels et scientifiques travaillent à un plan d'action pour contenir l'invasion et tenter d'éradiquer l'espèce, tandis qu'un arrêté de lutte est en cours afin d'imposer des mesures de biosécurité sur la zone concernée.
Venons-en à l'actualité religieuse avec à Tomol le 94e pèlerinage de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte-Face. Comme chaque année, les bénévoles de l'association Pèlerinage de Tomol se mobilisent sur le site pour l'accueil des pèlerins. Nouveauté cette année, l'organisation se passera sur une seule journée, le dimanche 5 octobre. Les pèlerins seront attendus sur place tout au long de la journée. La grand-messe sera célébrée à partir de 15h sur le site de Tomol par Monseigneur Susitino Sionepoe, l'archevêque de Nouméa. Dans l'actualité festive, cette action caritative organisée demain au casino Port-Plaisance, Kélinda Boiscouf.
Depuis les événements de l'an dernier, les petites sœurs des pauvres et leurs bénévoles organisent une quête de produits de première nécessité une fois tous les deux mois. Demain matin, elles seront deux devant le supermarché casino Port-Plaisance. Les précisions de sœur Marianne, mère supérieure des petites sœurs des pauvres.
Nous demandons ce dont nous avons besoin. Donc souvent, c'est des biscuits, de la boisson. La boisson est très chère en ce moment. Des jus de fruits, plutôt des jus de fruits, parce qu'on ne peut pas donner de la boisson sucrée aux résidents, trop sucrée, c'est pas bon pour eux. Mais on ne peut pas non plus donner de l'eau plate, parce que ça ne les encourage pas à boire. Et il faut que les résidents boivent, surtout par la chaleur. Donc nous serions reconnaissantes d'avoir plutôt des jus de fruits, des biscuits pour la collation, et après le café, le thé, le sucre, le sel, et aussi papier hygiénique, et du produit pour nos lave-vaisselle, des essuie-tout dont on a souvent besoin, voilà, des choses comme ça. On ne demande que des choses de première nécessité.
Les petites sœurs des pauvres et les bénévoles qui vous attendront donc demain de 8h à 13h au casino Port-Plaisance.
La salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa accueillera le premier salon découverte des métiers et des formations.
Un événement qui s'adresse aux collégiens, lycéens ou étudiants. Ce salon vous permettra de vous accompagner dans vos choix d'orientation. L'occasion d'échanger directement avec des professionnels et des établissements scolaires et supérieurs. Ce sera de 8h à 17h dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa. L'entrée sera gratuite et ouverte à tous.
Un marché paysan organisé demain au marché municipal communal de la Foix.
En plus du traditionnel marché de la Foix, la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie présentera à cette occasion les producteurs locaux du réseau Bienvenue à la ferme, ce qui représentera 90 exposants sur le site avec de nombreuses animations, notamment un taureau mécanique, le claquage de fouet ou encore la tonte de mouton. Les précisions de Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.
Il y aura les exposants habituels du marché de la Foix. C'est un marché qui est vraiment sympathique, qui a lieu tous les samedis. Et il y aura les exposants du réseau Bienvenue à la ferme en plus. Donc on aura en 80 à 90 exposants. Alors on aura tous les produits habituels. Hein. Vous savez, on est en pleine saison maraîchère actuellement. Mais aussi tous les produits transformés, les confitures, les hachards, les saucissons évidemment. De la restauration avec des produits locaux. Et puis de l'animation évidemment. Donc on aura par exemple une mini-ferme. On aura un rodéo qui aura lieu sur place. Des concours d'épluchage, de pommes de terre, puis des produits de saison, des huîtres, des squash, des fraises, etc. Voilà, c'est un événement qui est à ne pas manquer.
Le marché paysan, c'est de 8h à 13h demain au marché de la Foix.
Enfin, des animations seront proposées demain à la Maison de la Biodiversité.
Organisée dans le cadre de la fête de la science 2025, la ville de Nouméa propose pour la deuxième année consécutive des ateliers et animations gratuites sur le thème de l'énergie. Les visiteurs seront attendus de 10h à midi et de 15h à 17h30 à la Maison de la Biodiversité. La 20e édition de la Nouméenne OPT aura lieu ce dimanche 5 octobre à l'hippodrome Henri Millard. Elles seront 5000 participantes. Un événement organisé en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Pour l'occasion, l'Agence sanitaire et sociale de Nouvelle-Calédonie sera sur place pour une journée dédiée à la prévention du cancer du sein. Des départs échelonnés qui débuteront à 8h30. Les activités sur place sont prévues jusqu'à 15h. Et puis la ville de Nouméa organise ce dimanche 5 octobre de 7h à midi et demi son grand vide-grenier sur la place des cocotiers.
L'actualité dans la région Pacifique, le gouvernement papou approuve le traité Pukpuk. Il prévoit de lier les forces armées de Papouasie-Nouvelle-Guinée à celles d'Australie. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Ce traité Pukpuk, qui signifie crocodile en pidgin, va notamment permettre aux forces armées des deux pays de parfaire leur intégration et leur interopérabilité, d'unir leurs moyens et de se venir mutuellement en aide si la souveraineté territoriale de l'Australie ou de la Papouasie-Nouvelle-Guinée vient à être menacée. Ce traité, a précisé James Marape dans un communiqué diffusé hier soir, élèvera les relations sécuritaires des deux pays à leur plus haut niveau historique. Il a également révélé que dans le cadre d'accords bilatéraux, quelques 10 000 papous pourront servir dans l'armée australienne. Le premier ministre australien, Anthony Albanese, a salué l'approbation officielle du traité par le gouvernement papou. Nos deux pays sont les plus proches voisins et les plus proches amis, a-t-il dit. Ce traité élèvera nos relations au rang d'alliance officielle, a-t-il ajouté. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h10, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo de votre week-end.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Du 3 au 5 octobre, rendez-vous à la Moselle pour la 15e édition de la Foire du Pacifique. Une édition spéciale anniversaire avec le grand retour des pays du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, Wallis et Futuna, Vanuatu. 3 jours de fête non-stop, spectacles, animations, bonnes affaires chez plus de 250 exposants et des cadeaux à gagner. La Foire du Pacifique, un événement incontournable. Info et programme complet sur la page Facebook pacificfair.nc.
Hyper U Païta fête son premier anniversaire et sort le grand jeu pour vous gâter. Du 1er au 11 octobre prochain, participez au grand jeu anniversaire et tentez de repartir avec l'un des 10 pick-up Power King Kong à gagner. Remplissez votre bulletin de jeu et déposez-le dans l'urne prévue à cet effet. Tirage sort le samedi 11 octobre à 16h, remise des clés le dimanche 12 octobre. Jeu gratuit sans obligation d'achat, règlement déposé chez Maître Citrita, huissier de justice à Nouméa.
commerçants autrement.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
On va parler sport et football avec cette nouvelle défaite pour la sélection calédonienne des moins de 20 ans à la Coupe du Monde, Jean-François Bodin.
Oui, après une première défaite lourde contre les États-Unis, 9 buts à 1 en ouverture, les Cagous étaient opposés à l'Afrique du Sud. Le sélectionneur Pierre Wadjoka pouvait compter sur un effectif au complet, avec notamment le retour des suspendus. Mais cela n'a pas suffi. Malgré une belle opposition, les Calédoniens s'incliquent donc une nouvelle fois, défaite 5-0. Mais Pierre Wadjoka est quand même fier de son équipe.
C'était mieux que le premier match, c'est-à-dire qu'on est rentré dans le bain et en fait on a compris ce qu'on est venu faire. Et ensuite les garçons ont voulu jouer, on a eu quelques occasions. Si on marque le premier but, la première occasion, on marque peut-être le match change, la physionomie du match change. Mais bravo encore aux garçons qui ont tout donné. Ça a été une belle équipe d'Afrique du Sud, mais je félicite vraiment mes garçons.
Cette Coupe du Monde se déroule au Chili et pour encourager les Cagous dans les tribunes du stade de Rancagua, on trouvait des Calédoniens expatriés sur place. Louise Sijiman et sa famille ont donné de la voix.
Ce qui est incroyable, c'est que le stade chilien est entièrement pour la Nouvelle-Calédonie, donc ça scande Calédonia à tout bout de champ. C'est vraiment très très beau à voir. Les Calédoniens, franchement, se démènent. Ils peuvent être fiers de leur performance. C'est très intense. Donc, on prend beaucoup de plaisir. On est fiers de nos cagous et de porter avec eux les couleurs de la Nouvelle-Calédonie de ce côté du Pacifique.
Le dernier rendez-vous dans cette phase de poule pour les Cagous, ce sera face à l'équipe de France. Coup d'envoi du match lundi matin 7h. Les Bleus qui ont perdu 3-0 face aux États-Unis ce matin.
Venons-en au championnat du monde de parathlétisme qui se déroule actuellement à New Delhi en Inde et on suit les performances de trois Calédoniens.
Après sa décevante 7e place en finale du 400 mètres fauteuil en début de semaine, Pierre Ferbank n'a pas pu faire mieux que 8e en finale du 100 mètres fauteuil la nuit dernière. Il avait pourtant réalisé le 3e meilleur temps des séries. Pierre Ferbank participera à 23h05, heure de Nouméa, à la finale du 800 mètres fauteuil. De son côté, Vittorio Cavacava n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du lancer de poids assis. Avec 2 lancers sur 3 manqués, il n'a réalisé que 12,07 m, loin de son record de 13,41 m. Pour rappel, il avait terminé 9e de la finale du lancer du javelot. Enfin, Félicien Siapo a terminé avec ses championnats du monde. Il était engagé seulement sur le 100 mètres et réalise le 7e temps de la finale.
Le sport sur le territoire avec de nombreux rendez-vous ce week-end. On démarre avec Pro Events qui organise l'Alliance Pérignon VTT dimanche et le Trail Pérignon Alliance demain. Et tout ça, c'est au parc de la Rivière Bleue, Jean-François.
Un décor splendide, évidemment, pour ces deux événements. VTT, ce sera le final du Sud Tourisme VTT Pro Tour, rendez-vous populaire qui sera couplé, comme vous le disiez, Lionel, à un trail. Julie Prunet et de Pro Events se présente ce week-end dédié aux aventuriers.
Le décor est magnifique, on est entre la forêt noyée, la terre rouge, des forêts humides, des kaoris, enfin, c'est juste magique avec des points de vue qui sont indescriptibles sur le parc de la Rivière Bleue, c'est le spot magique. Pourquoi un trail? C'est pour créer aussi une émulsion et faire venir les gens sur le parc tout un week-end et faire vraiment un week-end sportif où là, il y en a pour tous les goûts de la famille, de quoi se challenger ou le faire en balade aussi, donc ne pas oublier que c'est accessible à toutes les familles, donc ça sera vraiment un gros week-end convivial, familial et sportif.
Ce VTT Pérignon Alliance et ce trail Pérignon Alliance au parc de la Rivière Bleue, c'est donc ce week-end en partenariat avec Radio Rythme Bleu. Notez qu'un marché sera également mis en place avec les producteurs de Yaté.
On prend la direction de Boulou Paris, Jean-François, avec le dernier rallye de la saison. Les pilotes seront rassemblés demain à Tomo Valley.
Oui, le contrôle technique c'était mercredi et 15 pilotes seront donc présents avec des petits nouveaux dans ce rallye. En tête du championnat, on retrouve Henrik Maui, mais rien n'est encore fait. Une spéciale a été rallongée, d'autres sont programmées de nuit. Il s'agit d'assurer le spectacle, explique Romain Léandro, le président de l'ASANC.
15 voitures au départ, donc avec un nouveau venu, donc le fils de Eugène Cronier, Loïc Cronier, pour son premier rallye. Et en plus de ça, on a aussi Maxime Lafont, qui est en ce moment ici pour son boulot et qui est en tête du championnat de terre en France en Mitsubishi, dans sa classe de véhicule. Ça va être une belle fête. En plus, on a le retour d'Alexis Barbou aussi. Bon, il va faire simplement l'ouverture parce qu'il met au point sa voiture, mais donc elle sera là. Donc, il y aura quand même 16 voitures du coup de rallye, mais il ne sera pas classé. Mais bon, ça fera du spectacle pour le public. On a mis en place des nouvelles zones spectateurs grâce à Max Fouché qui a fait encore du boulot. Donc, ils vont avoir des très belles zones spectateurs où ils pourront rentrer et sortir comme ils veulent. dans la journée. Donc s'ils veulent rester que pour une spéciale, ils peuvent et repartir. Des buvettes, à manger et compagnie, donc il y aura tout ce qu'il faut.
Voilà, ce rallye de Tomo-Valley, c'est donc demain. Le premier départ sera donné à 7h30.
Le sport mécanique encore avec la quatrième manche du championnat de Nouvelle-Calédonie de course sur prairies du motocross. Ça se déroulera dimanche à Téné. Du cyclisme également ce week-end à Bouraille avec le championnat de Nouvelle-Calédonie du contre-la-montre demain au domaine de Deva. Et on termine, Jean-François, avec quelques autres rendez-vous en bref sur le territoire.
Oui, d'abord du badminton. Le championnat territorial de jeunes en simple se déroule demain à l'Arène du Sud de Païta. Dimanche, ce sera les doubles. En tennis de table, la quatrième journée du championnat par équipe est prévue demain à Catiramona. En haltérophilie, la Coupe du Monde d'Or se dispute demain matin. Enfin, en football, sur le stade du Madélé, la finale du championnat U17 qui opposera demain à 16h l'AS Magenta à l'AS Lossy.
Venons-en aux principaux rendez-vous sport du week-end en métropole et dans le monde avec du football pour commencer. Et pour votre congé de fin de semaine, la septième journée du championnat de France de Ligue 1, les matchs se joueront demain, dimanche et lundi matin pour nous.
Alors demain, en ouverture de la journée, le Paris FC recevra Lorient. À suivre dimanche matin pour nous, Metz-Marseille, Brest-Nantes et Auxerre-Lens. Lundi matin, Lyon recevra Toulouse. Monaco accueillera Nice pour le derby de la Côte d'Azur. À suivre encore Le Havre-Rennes, Strasbourg-Angers et Lille-PSG pour le choc de cette journée.
Du rugby avec à suivre ce week-end la cinquième journée du Top 14, c'est le championnat de France élite. Les matchs se jouent demain, dimanche et lundi.
Alors demain soir, en ouverture de cette journée, Montpellier recevra La Rochelle. Dans la nuit de samedi à dimanche, à suivre Clermont-Montauban, Castres-Racing 92, Toulon-Pau, Perpignan-Stade français et Union-Bordeaux-Bègles-Lyon. Lundi matin, le dernier match de cette journée, ce sera une confrontation entre l'Aviron Bayonnais et le RC Toulon. Le rugby, c'est aussi la sixième et dernière journée du Rugby Championship dans notre hémisphère. À suivre demain à 20h45, Australie-Nouvelle-Zélande et dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de minuit, Argentine-Afrique du Sud.
Et puis au chapitre sport mécanique de la Formule 1 et la 18e manche du championnat du monde.
Alors tout le monde est ce week-end à Singapour. La première séance d'essais libres se déroulera ce soir à 20h30. La séance de qualif se disputera demain soir à partir de minuit. La course sera dimanche soir pour nous avec un départ à 23h heure de Nouméa. Sur du roux, on suivra ce week-end la 18e manche du championnat du monde de MotoGP. Marc Marquez étreindra son 7e titre de champion du monde en Indonésie. La course sprint se courra demain à 18h. Quant à la grande course, le départ sera donné dimanche à 18h. Heure de Nouméa.
Et on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, sur l'ouest, le ciel sera passagèrement nuageux avec quelques ondées qui pourront encore se déclencher en première partie de nuit sur le nord-ouest. Sur la côte est et le nord, des loyautés, des averses surviendront par endroits, mais le ciel se dégagera progressivement au fil de la nuit. Sur la pointe sud et marée, le vent de secteur nord-ouest soufflera entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, il restera souvent variable et faible autour de 5 nœuds. Les températures s'établiront entre 19 et 22 degrés et localement 18 degrés sur les loyautés. Demain matin, sur l'ouest et l'île des Pins, des passages nuageux s'accompagneront de faibles ondées. Ailleurs, le soleil dominera. L'est et les loyautés seront quasiment déventés. Sur les autres régions, le vent s'orientera au secteur sud-ouest autour de 10 nœuds. Concernant les marées, elle sera basse cette nuit à minuit pour 0,66 m, pour remonter demain matin à 5h38 pour 1,17 m et enfin redescendre à 11h14 pour 0,46 m.
Il est 18h20, la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.